C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJs de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London time, the station with kicks on 266.
L'année 1977 commence par le voyage du navire de la Voie de la Paix dans le canal de Suez. Abi Nathan en rêvait depuis la réouverture de cette voie hautement stratégique et symbolique. Il ne réalisa son rêve qu'en partie, car le navire ne put emprunter tout l'itinéraire initialement prévu. En mai de la même année, l'emblématique fondateur de la Voie de la Paix entame une grève de la faim pour forcer le gouvernement israélien à envisager une relation pacifiée avec ses voisins arabes, sans effet. Pendant ce temps en Europe, le navire qui héberge Radio Miamigo et Caroline tente de survivre malgré des difficultés d'approvisionnement de plus en plus importantes. Si au Proche-Orient, The Voice of Peace a fait la démonstration de sa popularité, en Europe, en revanche, il est très difficile de mesurer l'impact réel de Radio Miamigo et Caroline, car en raison des différentes lois anti-radio offshore, les médias officiels n'ont pas le droit d'évoquer le sujet et les instituts de sondage n'ont pas non plus le droit de comptabiliser les taux d'audience ou en tout cas de publier ces chiffres. Quoi que l'on sache de l'impact réel des deux dernières radios flottantes en Europe du Nord, le Miamigo est attentivement surveillé. Pour l'instant, symbole de résistance, il y a toujours le risque qu'il soit le point de départ d'un redémarrage du phénomène des radios offshore. Durant l'été 1978, la guerre fait rage au Liban. The Voice of Peace va diffuser de réguliers appels pour soutenir les enfants de Beyrouth en sollicitant les dons. Il s'agit de fournir des médicaments et des structures mobiles de soins. Abi Nathan prévoyait que le Peace Ship irait jusque dans le port de Beyrouth pour acheminer les dons. Mais les autorités israéliennes lui déconseillèrent de s'aventurer dans cette zone de guerre. Il sollicita la Croix-Rouge pour la distribution. Mais l'organisation ne donna pas suite. Il revint alors à sa première idée et le MV Peace leva l'ancre le 7 août dans la soirée en direction du port d'Ashdod pour y charger la cargaison. Le lendemain, le bateau prit la mer avec à son bord non seulement quelques DJ, mais aussi une équipe de télévision. Pendant que le navire faisait route vers le Liban, les émissions se poursuivaient. À minuit le 8 août, les programmes laissèrent place à de la musique arabe et à des messages signalant que le bateau était porteur d'une cargaison pour les habitants de la capitale libanaise. À 8h le 9 août, le MV Peace jeta l'ancre dans la baie de Beyrouth. Son voyage avait été très médiatisé et des journalistes montèrent à bord pour suivre l'événement. Un navire militaire syrien aborda le MV Peace et informa l'équipage qu'il serait plus prudent de retourner dans les eaux internationales en attendant qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu pour lui permettre d'entrer en toute sécurité et d'accomplir sa mission humanitaire. Le Peace Ship se positionna donc dans les eaux internationales en signe de bonne volonté. Les forces phalangistes chrétiennes firent alors savoir qu'elles pourraient récupérer la cargaison pour assurer la distribution. Nathan accepta en précisant que tous les enfants devaient en bénéficier, quelle que soit leur confession religieuse. Le bateau se rendit dans un petit port au nord de la capitale, mais les phalangistes chrétiens ne se manifestèrent plus. Alors, Nathan décida de ramener le bateau vers Beyrouth. Il mouilla pendant 2 jours tout près du rivage, mais plus personne ne le contacta ni ne répondit aux sollicitations. Que ce soit les autorités, les différentes parties impliquées dans le conflit et même la Croix-Rouge. Le navire leva l'ancre le 12 août et à l'antenne, Nathan condamna l'indifférence des parties concernées et annonça que l'aide humanitaire serait fournie à un camp de réfugiés à Chypre. Puis, le navire retourna vers son ancrage au large de Tel Aviv. Abi Nathan était, comme on peut l'imaginer, très déçu de l'échec de la mission dans laquelle l'équipe avait investi énormément d'énergie et d'espoir. En Europe, des rumeurs insistantes font état d'une fermeture prochaine de Radio Miamigo et Caroline. Toutes deux avaient été réduites au silence durant 3 jours en juillet à la suite d'une panne de générateur. C'était une chose, hélas, devenue courante. Lors du redémarrage de Radio Miamigo, les DJ démentirent les rumeurs de fermeture. Malgré tout, la situation de la radio de Sylvain Tac était compliquée. Le bateau émetteur se trouvait en mer du Nord, près des côtes britanniques. Les émissions étaient pour la plupart enregistrées en Espagne et devaient être acheminées en mer, et les bureaux, clandestins bien sûr, étaient en Belgique. On disait que Sylvain Tac cherchait à céder la radio. Au début du mois d'août, Radio Caroline lança le Caroline Fun Bus Tour. Un bus à impérial reconverti en disco mobile fit une tournée sur certaines plages de la côte sud-est de l'Angleterre et aussi en Belgique. L'organisateur de la tournée, Rob Eden, expliqua que si le nom de la radio n'est pas directement mentionné ni la fréquence, cette tournée n'est pas illégale. Effectivement, l'événement s'appelle le Caroline Roadshow et non le Radio Caroline Roadshow. Néanmoins, la Phonographic Performance Limited, chargée de délivrer les autorisations pour toute manifestation musicale, déclara qu'elle allait saisir les tribunaux.
News from the Caroline Roadshow.
The Caroline Roadshow comes to the continent. On Tuesday the 15th of August in Dancing the Punch in Avelgem. On Saturday the 19th of August in Zaal Prinsenhof de Liesewegen and in Dancing John B, Hotel Broertje te Barendrecht. Sunday the 20th of August in Zaal Meermelink aan de Grote Markt te de Xmuiden. The DJs at the Caroline Roadshow on the continent will be Eddie Vreene, Serge Hardeman and Alan West. Doors open at all shows at 8 p.m. For booking and information about the Caroline Roadshow on the continent, ring the Daveu Music Company in Belgium on 051-567-439. That is 051-567-439.
Le 21 août 1978, une nouvelle station de radio maritime débute des essais de transmission à partir d'un navire ancré dans les eaux internationales en face de Katzand à la frontière néerlando-belge.
Welkom u als luisteraar bij Delmar in het programma Goud van Oud van Astrid de Jager. I can hear the grass grow. En als u dat kan, ga dan lekker op de grond liggen. Luisteren naar de grassprietjes die tegen elkaar aan klingelen. En dat deden zo ook de Move. Marvin Welsh en Farrar, Lady of the Morning. Dus voor alle vroege opstaanders en dan wel de vrouwelijke.
Cet extrait provient d'une cassette destinée à faire la promotion de cette nouvelle radio avant son lancement. On y entend la voix de l'animatrice Astrid de Jager. Des rumeurs circulaient depuis quelques mois sur le projet d'une nouvelle radio offshore au large des côtes hollandaises. Le 23 juin, la police avait perquisitionné un caboteur amarré dans le port de Scheveningen et saisi du matériel de diffusion radio, ainsi que des disques et des bandes enregistrées. En fait, le navire était sous surveillance depuis quelque temps car en 1975, des rumeurs avaient circulé sur la possibilité qu'il accueille le retour de Radio Veronica. Derrière cette nouvelle radio flottante, on trouve une équipe de passionnés avec à leur tête Gérard Van Damme, qui est loin d'être un inconnu. En 1972, il avait largement contribué à la remise à flot du Miamigo et au retour de Radio Caroline. Après avoir quitté le projet suite à des différends avec Ronan O'Reilly, Van Damme avait travaillé comme DJ pour Radio North Sea International et Radio Atlantis sous le nom de Gérard Van Der Zee.
Gowie Klitter op Radio Atlantis 201. Voor een klein poosje, want zoals u weet, we zijn even bezig met wat experimenten. We gaan er heerlijk lustig van los vandaag. Radio Atlantis 201 meter. Postbus 385 Oostburg in Nederland.
L'origine de Radio Delmar remonte à l'année 1977, au cours de laquelle de furtives transmissions radio eurent lieu en Hollande depuis la Terre, sous le nom de Weekend Music Radio. Mais Van Damme et son équipe savent très bien que les émissions terrestres régulières sont impossibles, sauf à déplacer l'émetteur en permanence pour éventuellement éviter d'être localisé par les autorités. D'où l'idée d'utiliser le caboteur Aegir. Malgré la descente de police, Van Damme affirme que son projet se concrétisera bien et dans peu de temps, car la justice n'a pas ordonné la saisie du navire qui quitte Scheveningen le 26 juin 1978 sans être inquiété. Il jette l'ancre tout près de Rem Island, la plateforme construite en 1964 pour accueillir Radio et Télé Nordsee. De cet endroit, le navire fera plusieurs séjours dans divers ports de la région pour y être progressivement équipé, visiblement sans que les autorités ne s'en aperçoivent. C'est ainsi que la Aegir se retrouve au large de Katzand et que des essais de transmission débutent le 21 août à partir d'un émetteur de très faible puissance, 500 watts.
1 minute na 12 uur geworden op Radio Delmar. Tot iedereen die op het moment luistert, zeg ik een bijzondere goede middag. Bedankt Astrid de Jager voor het programma van daarnet. Tussen 11 en 12. We was weer gezellig met een kopje erbij. En nu kunt u luisteren naar twee masten. Gezellig onder het eten hoor. Een beetje muziek op de 100 netten.
Les programmes sont essentiellement constitués de musique non-stop et de quelques émissions principalement animées par Gérard Van Damme lui-même. Une adresse en Espagne est communiquée pour l'envoi des rapports de réception. D'autres essais de transmission eurent lieu les jours suivants et la radio ouvrit officiellement son antenne le jeudi 7
septembre 1978.
Vakantiedag voor alle dolfijnvrienden en hun kinderen. Kom naar Dolfi Rodan in het Zeeuwse plaatsje Scharredijken, want daar zie je Flipper. Haal een folder bij het VVV-kantoor en kom naar Dolfi Rodan voor de dagelijkse dolfijnenshow van Flipper. Dus tot ziens in Dolfi Rodan te Scharredijken, nabij Renesse in Zeeland.
Mais dans la nuit du 10 au 11 septembre, un vent violent souffla avec acharnement. Le Haïgir rompit ses deux chaînes d'ancrage et ses moteurs tombèrent en panne. Totalement hors de contrôle, le bateau dériva vers le nord-est. L'équipage lança des appels de détresse à l'antenne et un remorqueur se porta près du navire et le prit en charge pour l'amener dans le port de Maaslui. Les quatre personnes à bord, dont Gérard Van Damme, furent immédiatement interpellées et interrogées, puis relâchées. Du matériel fut également saisi. Le procureur de Rotterdam ordonna cette fois l'immobilisation du Haïgir, ce qui signifiait a priori la fin de la station. Toutefois, Gérard Van Damme n'avait pas dit son dernier mot. Voici un extrait d'une émission préenregistrée du DJ John Anderson, qui aurait dû être diffusée le 21 septembre 1978 entre 14h et 15h, mais que personne n'entendra à l'époque. Nul doute que l'animateur ne s'imaginait pas qu'il serait entendu 47 ans plus tard dans un programme consacré aux radios offshore.
Dit is de band voor woensdagmiddag tussen 2 en 3 uur. Dit is John Anderson. Dit is de band voor 20 september 1978. Dus John Anderson tussen 2 en 3 uur woensdagmiddag. Er zit hier geen 5 minuten pauze in om 2:30. Dus de band loopt na één keer door tot 3:03. En daarna krijgen we Gerard. Oké, mensen aan boord, alles kids, hier gaan we dan weer. Voor de zoveelste keer zit wat Moody Blues in, dus wel leuk misschien. 3, 2, 1.
Dit is John Anderson voor Radio Del Mare. Op 192 meter middengolf.
Les radios flottantes, même s'il n'en existe presque plus, bénéficient d'une très bonne image auprès du public, britannique en particulier. Comme en témoignent ces deux messages de lecteurs du Daily Mail. The Daily Mail, vendredi 22 septembre 1978. Vive Caroline! Quand le gouvernement va-t-il céder et accorder à Radio Caroline le droit légal de diffuser ? La loi sur la radiodiffusion des infractions maritimes est devenue une véritable source d'embarras pour le gouvernement. D'autant plus qu'elle n'a absolument pas réussi à empêcher Radio Caroline de diffuser. Cette loi n'a fait que rendre les auditeurs plus réfractaires à la loi. Cliff Bowell, Pollegate, Sussex. J'admirerai toujours les stations de radio offshore, pour les formats de diffusion nouveaux et informels qu'elles ont introduits il y a 12 ans, forçant ainsi de nouveaux venus dans les couloirs étouffants de la BBC et instaurant une approche plus conviviale envers les auditeurs. Madame Doreen E. Barnes, Perrycroft, Windsor, Berkshire. C'est sûr que Radio Caroline, nous l'avons souvent dit, a forcé la BBC à évoluer et à moderniser ses programmes. Toutefois, en ce 21 septembre 1978, Caroline garde une longueur d'avance, si l'on peut dire, en proposant aux auditeurs d'entendre une animatrice qui a bien forcé sur la bouteille.
And it's on 319 meters in the medium wave, 962 kHz. This is Europe's first and only album station, Radio Caroline.
Radio Caroline.
It didn't work, did it? No. The weather for the 319 area will be cloudy with lots and lots of rain at times, and the winds will be fresh to strong westerly, and tomorrow will be strong to westerly. And the thing is, Stuart Russell, this is not...
What have I done?
Yeah,
what have I done wrong?
Please put the light on for me.
Oh, sorry. Well, it's been off all night. Can't you see it?
No, I can't. There's not enough light here. We put the light on. Please. It doesn't work. Okay.
Well, there we go.
Oh, fine. Beautiful. Okay, tomorrow we'll be on a slight north sea. The current Miami go down. Absolutely amazing. Okay. These guys really believe in taking the piss out of me, don't they? Okay, the weather.
Okay.
On a slight north sea, the current bigger, bigger, a big ruby. Look back, Jacobs. Me, Miko temperature will be 8 degrees centigrade.
C'est peut-être l'un des hommages les plus malicieux que nous pouvons rendre à Samantha Dubois, l'une des rares femmes DJ de l'histoire des radios offshore, qui disparut à l'âge de 37 ans le 1er octobre 1992. Ce bulletin météo restera sans doute comme l'un des plus drôles de l'histoire de la radio. Cet automne 78, la police belge resserre son étau sur Radio Miamigo. À plusieurs reprises, elle a interpellé des personnes collaborant avec la station, et même s'il n'y a eu aucune suite judiciaire, la police belge a montré qu'elle était au fait des liens terrestres que la radio entretenait dans le pays. Les radios offshore ont toujours utilisé des messages codés plus ou moins sophistiqués pour transmettre des informations à leur base opérationnelle. Il pouvait s'agir de phrases d'apparence anodine et prononcées lors d'un programme, ou de disques précis joués par exemple juste avant ou après le top horaire. Mais ce 20 octobre 1978, c'est clairement un message chiffré digne d'un service de renseignement qui est transmis à l'antenne de Caroline.
This is Caroline on 319 meters, and tonight's numbers are as follows. Number 19, number 40 times 2, number 41, delete the first two words. Repeat those, numbers 19, number 40 times 2, number 41, delete the first two words.
Ce message a-t-il pour but d'informer le bureau espagnol que le générateur du Miamigo connaît à nouveau des problèmes? En tout cas, le jour même, les deux radios sont réduites au silence et les spéculations repartent de plus belle sur le fait que la panne de générateur ne serait pas la seule cause du silence des deux stations. Trois jours plus tard, Radio Miamigo fait son retour via des radios FM espagnoles légales qui diffusent un programme concocté par l'équipe de la station offshore. Sylvain Tac déclarant que ces programmes seront quotidiens à partir du mois de janvier 1979. Sur le Miamigo, désormais silencieux, la situation se dégrade vraiment. En janvier 79, les approvisionnements en carburant sont de plus en plus rares, obligeant l'équipage et les DJ à n'utiliser qu'un petit générateur durant 3 heures par jour au maximum, juste pour faire la cuisine et répondre aux besoins absolument indispensables. La plupart du temps, il n'y a pas de chauffage à bord du bateau, ni de lumière, et les DJ ne peuvent même plus regarder la télévision, ni utiliser le réfrigérateur. Le 16 janvier, le navire radio commença à prendre l'eau, et l'on dut faire fonctionner le petit générateur en permanence pour alimenter les pompes à eau situées dans la cale. Le générateur tomba en panne, et l'on dut en mettre un autre en service, plus puissant et aussi plus gourmand en carburant. Il sollicitait dangereusement les minces réserves de gazoil encore sur le bateau. Mais ce générateur tomba lui aussi en panne, tard dans la nuit. Et le bateau fut totalement privé d'électricité. Mais surtout, les pompes ne fonctionnant plus, l'eau commença à monter à l'intérieur de la cale sans possibilité d'y faire face. Le 17 janvier, le vent s'intensifia et la mer devint de plus en plus agitée. À l'intérieur du Miamigo, l'eau monta encore de façon très inquiétante. l'équipage décida d'appeler les secours. Voici un extrait des alertes envoyées aux navires sur zone par les gardes-côtes de North Foreland sur la fréquence 2182 kHz.
Mayday relay, mayday relay, mayday relay. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. North Foreland radio, North Foreland radio to all ships, all ships, all ships. Following received from Mi Amigo. Following received from Mi Amigo at 1509 Zulu. At 1509 Zulu on 2182 kilohertz. On 2182 kilohertz. Shipping water. Shipping water. Five crew members on board. Five crew members on board. Request lifeboat assistance. Request lifeboat assistance.
La station de North Foreland envoya un hélicoptère et un remorqueur était aussi prêt à intervenir. Deux navires marchands se rapprochèrent également du Mi Amigo et le canot de sauvetage de Harwich prit la mer. L'équipage refusa d'être hélitreuillé, mais lorsque le canot Harwich arriva sur zone alors que la nuit était tombée, la situation du Mi Amigo était dramatique. Sa poupe était presque immergée et la proue se dressait hors de l'eau. Tout le monde évacua. Et selon les secouristes, le navire radio allait probablement couler sous peu. Mais le 18 janvier, à la faveur d'une amélioration des conditions météorologiques, le bateau n'avait pas coulé. Peter Chicago décida de revenir à bord, craignant que la situation du navire soit exploitée pour le neutraliser. Il put redémarrer une pompe et entreprit de vider l'eau qui avait envahi la salle des machines, le studio, les cabines et la discothèque. Miraculeusement, le compartiment de l'émetteur avait été épargné par l'inondation. Dans la journée du 19 janvier, certains DJ et un technicien revinrent sur le bateau avec un nouveau générateur. L'électricité put être rétablie en permanence. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant de pouvoir à nouveau entendre Caroline. Le 15 avril 1979, sur la fréquence 319 mètres, c'est d'abord un programme musical non-stop que l'on peut entendre à partir de 9h40. À 11h, les programmes reprennent en direct.
This is Caroline on 319, your all-day music station.
Caroline était absente des ondes depuis le 20 octobre 1978. C'est Tony Allan qui anime ses premières heures d'émission. Et dès le début, il s'exprime en anglais et néerlandais.
Goedemiddag, het is 12:02. U luistert naar Radio Caroline op 319 meter, 319. Dat komt overeen met een frequentie van 963 kilohertz. En ik wens u namens alle medewerkers van Radio Caroline een prettige kerst. Good afternoon, or good morning actually, it is really, I suppose, 2 minutes past 11 hour time, 2 minutes past 12 cloggy time. This is us, we're back, and I thought we'd start off with this one.
À partir de 12h, c'est uniquement le néerlandais qui est utilisé par Tony Allan. En fin d'après-midi, un programme religieux sponsorisé est diffusé, puis les émissions en anglais débutent.
Right. Didn't know that was going to happen. Should have guessed. Just after 7:30, if you've yet to contact your friends, then do get on the blower or something and tell them we're back, Caroline, 319, noisy beast. That was Nick Lowe, Heart of the City from Jesus of Cool. And before that, I'll have a look at a piece of paper. It says, Media Messiahs, Eddie and the Hot Rods from Thriller. Right, here's Tom Robinson.
De nouveaux DJ ont rejoint l'équipe et le nom Radio Mi Amigo a complètement disparu. Caroline émet pour l'instant dans les deux langues, ce qui vient confirmer une rumeur insistante, la fin du partenariat entre la radio de Sylvain Tak et celle de Ronan O'Reilly. Sur les côtes hollandaises, Gérard Van Damme fait reparler de lui. Après la saisie du Aegir qu'il utilisa brièvement à la fin du mois d'août 1978, il jeta son dévolu sur le Martina. Les autorités néerlandaises arraisonnèrent le bateau dans le port de Jacobshaven, mais comme il n'était porteur d'aucun matériel de diffusion radio, elles ne purent le retenir malgré leurs soupçons. Le 29 avril, le navire désormais connu sous le nom de Aegir II jetait l'ancre au même endroit que son aîné près de 9 mois plus tôt. Gérard Van Damme avait réussi à se procurer deux vieux émetteurs en ondes moyennes de l'armée américaine qui avaient été modifiés pour être installés sur le bateau. Ils furent testés depuis la terre, mais les autorités belges et néerlandaises réussirent à les localiser. Ainsi, en mai, ils furent saisis près d'Anvers dans des locaux appartenant à Van Damme. Toutefois, l'homme ne manquait pas de ressources et fin mai, il réussit à se procurer un nouvel émetteur qui fut installé avec succès sur le Aegir II. Pendant ce temps, depuis le début du mois de mai, dans un studio à terre, l'équipe se préparait et enregistrait des émissions test et des PAD, comme on dit dans le métier. Voici le début d'un programme de l'animatrice Astrid de Jager, enregistré le 11 mai 1979, entre 10h et 11h.
Vrijdag 11 mei tussen 10 en 11. ADE te. Nou ja, doet het niet toe. Wat moet ik nog meer zeggen?
Samen doen in koor.
Laten we het maar samen doen.
In koor. 1,
1, 2, 3. 3, 2, 1.
Vijf jaar gemiste hitgevoeligheid vanaf de Noordzee. Dit is Delmare met de 1000 grootste hit sinds 31 augustus 1974. Het komend uur met...
De Jager op Delmare.
Nou, dat is niet te geloven. ADE. De Delmare. Goed, Astrid de Jager is weer bij u. Rob van der Meer die doet nog steeds de techniek. Maar hij heeft... Hij... Nee, maar wacht even. John Anderson is ook de studio binnenkomen lopen. Hè? En nu is de hele studio meteen vol. Helemaal vol.
Ik mannetje. Vind je niet Rob van der Meer? Rob van der Meer. Hij is zo smal, hè?
Le 2 juin, sur la fréquence 192 mètres ondes moyennes, Radio Delmar commence à diffuser un programme musical non-stop avec des jingles et une dizaine de jours plus tard, des émissions démarrent.
De hitgevoeligheid en we zijn al een end op dreef. We zijn al 4 jaar verder. We zitten in april, mei 1978 en dan zijn we al bijna 1979. Ja, wat is er? Nee, ik neem de boel niet in de maling. Ik ben blij dat u er bent en ik hoop dat u ook dit uur weer afgestemd blijft op Delmare. Lieve John, kom eens even bij mij. Jan en ik staan nu arm in arm. Vertel eens wat tegen die mensen, die allerliefste mensen.
C'était les DJ's de la haute mer, 30e épisode.
Oh, maar John is er weer. U heeft mij wel moeten missen zeker afgelopen 4,5 jaar. Maar goed, ik ben er weer. Tussen 2 en 3 uur in de week zit ik. Dat hoort u wel, 100 kilo muziek achter de microfoon. Dat kan niet op.
En als Ome John 100 kilo weegt, dan deelt u dat gewoon door 2. En dan heeft u een Astrid de Jager achter de microfoon. 2x Astrid is 1x John Anderson. Maar genoeg geleuter, we gaan door met muziek. We gaan van start met muziek. Eerste plaatje in dit uur. Gisteren heb ik ook al een plaatje van me gedraaid. Dat is Gila, Bend Me, Shape Me.